Jacques chapitre 5, les versets 7 à 11. Je lis. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Quelques semaines que nous étudions cette épître à Jacques, et le contexte, ce sont des chrétiens qui sont dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la tentation des fois de la vengeance. Il y a plusieurs choses qui peuvent être là quand on est mis en danger. On avait vu que Jacques reprend le problème par rapport aux richesses aussi, ne pas vouloir être forcément riche ou jalouser ceux qui sont riches. Il demandera à ces chrétiens maintenant d'être patients dans l'épreuve. Alors, est-ce que vous êtes des gens patients ? Non ? Comment ça se fait, là ? On devrait être patient. Hein ? Et tout particulièrement quand il y a de grosses difficultés. Et le Seigneur veut qu'on apprenne justement la patience. Et pas se dire, non, moi je ne serai jamais patient, je reste comme je suis. Vous allez voir que ce n'est pas très bénéfique pour vous, en fait. Donc il va s'adresser aux frères, hein, puisqu'il va le dire trois fois, frère. Donc il s'adresse bien aux membres de l'Église à ce moment-là. Et il va leur apprendre, leur demander d'apprendre à devenir patient, et pas seulement quand tout va bien, parce que là on est à peu près patient, mais surtout patient quand tout va mal. Première chose qu'il apprend, versets 7 et 8, c'est qu'il faut patienter parce qu'un jour Jésus va revenir, ou au moins patienter jusqu'au retour de Jésus. Dans ce texte, vous ne le voyez pas parce qu'on voit ça dans le grec, il emploie trois termes pour parler de la patience en fait. Le premier parle au verset 7 de la patience des chrétiens, ça c'est pour nous. Le mot veut dire avoir un esprit de persévérance, être lent à la colère et à la vengeance. L'idée, c'est que ces chrétiens étaient dans la difficulté, on était injuste avec eux, ils mouraient pour un rien. Et la tentation à un moment de se venger était là, évidemment. Mais Jacques leur dit, soyez patients, il faut être persévérant, même si on est injuste avec vous, parfois. Il faut tout simplement avancer et ne pas avoir envie de se venger ou de se mettre en colère vis-à-vis de ceux qui vous persécutent. C'est donc une patience qui est courageuse. Enfin, on pense que la patience, c'est juste d'attendre. Il faut des fois du courage, et ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu tout à l'heure avec notre frère. Et tout particulièrement, avoir du courage et être patient quand l'épreuve est difficile. C'est là où on en a le moins, généralement. Où on se laisse aller très vite à nos sentiments. Il y a un deuxième mot qui est employé dans le verset 10. Il parle de la patience des prophètes. Cette patience, ce n'est pas exactement la même chose. C'est une patience qui est pleine de longanimité, de persévérance et aussi de douceur. Il y a cet esprit de douceur aussi. Elle est empreinte de douceur, elle est calme face à l'épreuve. Si vous prenez le temps d'étudier un peu les prophètes, vous verrez que face aux difficultés, ce n'est pas des gens qui s'énervaient forcément. Parfois, il fallait être sévère. Mais en tout cas, ils restaient calmes et doux parce qu'ils portaient la parole de Dieu vis-à-vis des gens qui ne voulaient absolument pas l'entendre. Comment être doux et patient avec des gens qui ont envie de vous faire du mal ? Naturellement. On a envie de taper dessus, non ? Et pourtant, le Seigneur nous appelle à avoir cette douceur aussi dans l'épreuve. Et puis, il prend un dernier exemple avec le verset 11, où le mot « patience » est encore différent. On parle là de persévérance pour Job, hein, de patience, de fermeté, de constance. Vous connaissez David Job. Il a tout vécu, le pauvre. Il a souffert, il a tout perdu. Mais il est resté patient. Il n'était pas parfait, mais il est resté patient dans cette épreuve. Et là, c'est une résistance de sa part qui était ferme, durable. Hein, et c'est ça que le mot veut dire. Il était ferme et dans la durée aussi. Et dans sa grande épreuve qu'il a vécue, puisqu'il a perdu ses enfants, il a perdu toutes ses richesses, il est tombé malade, sa femme lui a dit « vas-y, meurs ». Bref, il n'était pas dans une bonne situation. Ça vous intéresse ? Non, hein ? De toute façon, je ne pense pas qu'on aura vu ça. Mais voilà, il était ferme et resté patient malgré la difficulté. Si on résume un peu ces trois mots, on pourrait dire que la patience doit être courageuse, pleine de douceur, persévérante, ferme et tenir dans la durée. On est souvent patient pour 5 minutes, hein ? Non ? Vous êtes prêt à patienter 5 minutes pour quelque chose ? 10 ? 10 heures ? 10 ans ? Ah ouais. On est très fiers de nous, des fois, parce qu'on est patient dans certaines petites choses, mais des fois, Dieu nous permettra d'avoir des situations où il va falloir vraiment apprendre la patience. Et ça fait mal, des fois, d'apprendre. Quelqu'un écrivait, en parlant de cette patience, il disait, c'est un certain William Barclay, nous explique ainsi son sens dans la deuxième épître de Pierre, hein, il y a aussi eu ce mot. Ce mot ne signifie jamais l'esprit qui s'assied les bras croisés et supporte simplement la situation, comme s'il était résigné. C'est une résistance victorieuse, une constance masculine dans l'épreuve, féminine aussi on va rajouter, hein. C'est la ténacité chrétienne, l'acceptation brave et courageuse de tout ce que la vie peut nous apporter, la transformation de ce qu'il y a de pire en une nouvelle étape dans la voie ascendante. C'est la capacité courageuse et triomphante à supporter les choses qui permet à un homme de dépasser le point de rupture et de ne pas se briser, et de toujours saluer l'invisible d'une acclamation. En d'autres termes, il dit que la patience nous apprend à aller un petit peu plus loin. Vous connaissez les tendeurs, hein ? On peut tirer un maximum dessus. Hein ? Bon, à un moment, ça casse, mais le Seigneur permettra jamais que ça casse. Mais parfois, le Seigneur permet que cette patience va être étirée, étirée, qu'on aura de plus en plus de temps à attendre pour que le Seigneur réponde à telle ou telle question, épreuve, etc. Mais là, je vais apprendre à patienter. Vous ne pouvez pas apprendre à patienter autrement. Je suis désolé, j'aurais bien voulu autre chose, mais c'est difficile d'apprendre à être patient. Quelqu'un d'autre écrivait, la patience ne signifie pas un assentiment passif ou une soumission à la défaite, mais elle veut dire être patient avec la personne lente à apprendre. J'aime bien comme il retourne un peu le truc. Mais oui, c'est pas se résigner la patience. Au contraire, c'est actif. On lutte quand on est en train de patienter. Et bien, prendre une image, celle du laboureur. Bon, à l'époque, c'était très clair pour les gens. Aujourd'hui, peut-être moins, puisqu'on voit que des tracteurs. Hein. Mais vous savez ce que c'est qu'un laboureur. Le laboureur, c'est quelqu'un qui travaillait toute la journée avec beaucoup d'acharnement. Et ça devait être vraiment difficile. Et il travaillait, mais pas pour récolter ce fruit tout de suite. Parce qu'il fallait qu'il attende tout simplement la récolte, comme nous encore aujourd'hui. Mais il travaillait malgré tout, difficilement, avec beaucoup de patience, pas forcément avec l'assurance que sa récolte sera bonne, parce que la terre fait des fois ce qu'elle a envie, mais il était patient, et il s'acharnait dans cette patience. Il attendait ce salaire, mais ce salaire n'était pas là immédiatement. C'est pareil pour nous, quelque part, une espèce de métaphore par rapport à notre salaire à nous, à notre récompense. C'est pas sur la terre qu'on va l'avoir, la récompense. C'est dans le ciel qu'on va avoir cette récompense. Un jour d'être avec le Seigneur, ça sera toute notre récompense et il y aura bien plus. Mais pour l'instant, il faut attendre. À moins que vous vouliez aller tout de suite. On fait la gap ou on va auprès du Seigneur tout de suite? C'est lui qui décide de toute façon, donc ça va. Mais il faut patienter. Et comme ce laboureur, le chrétien veut patienter, il va devoir faire beaucoup d'efforts dans sa vie. Il y aura des moments chouettes, mais il y aura des moments difficiles, d'adversité. Pour l'instant, on est bien tranquille en France, on n'est pas persécuté en tant que chrétien, mais ça peut arriver. On va peut-être traverser des épreuves dans la vie, des deuils, des situations de souffrance, de maladie, et c'est là où justement, on va voir comment on est patient réellement. Alors je vous souhaite que du bien, hein. Mais en même temps, je sais que si on vit toujours pépère, on n'apprend pas la patience, c'est ça le problème. Donc je n'ai pas prié pour que vous ayez des épreuves, je suis quand même pas méchant à ce point-là, mais pensez-y le jour où ça vous arrive. Et surtout que nous, en tant que chrétiens, nous patientons avec un objectif. D'ailleurs, le non-croyant doit des fois patienter, mais il ne sait pas pourquoi il est sur la terre, qu'est-ce qu'il fait là. Et pour lui, ça doit être terrible. Mais nous, on sait qu'au bout, on va avoir Jésus-Christ. Et il va revenir un jour. Et ça nous donne un peu de joie. C'est alors qu'on sera récompensé. Au verset 8, il dit « Patientez en affermissant vos cœurs ». Le verbe « affermir », c'est être affermi, prendre la résolution, rendre stable, ferme. En fait, je vais affermir mon cœur dans la patience en prenant une décision personnelle de vouloir endurer, rester stable, rester ferme dans l'épreuve. Je ne peux pas la prendre à votre place. C'est vous qui devez décider à un moment si vous voulez absolument lutter dans cette épreuve et apprendre à être patient. C'est un effort d'être patient. Ce n'est pas un truc qui vous tombe sur le coin de la figure à un moment. Ça serait tellement plus simple. Mais comme tout effort, on peut le faire. Surtout si le Seigneur nous le demande. Mais c'est un effort volontaire. Et je pense que celui qui va apprendre à être patient va comprendre qu'il va devenir de plus en plus stable. Et surtout, il va apprendre à maîtriser l'épreuve. C'est peut-être parce qu'on ne maîtrise pas les épreuves ou ce qui arrive dans ces épreuves que des fois on panique et qu'on crie à Dieu et qu'on devient complètement fou. Mais celui qui a appris à maîtriser l'épreuve, c'est-à-dire à rester calme malgré l'ouragan qui arrive, à rester fidèle dans le Seigneur, à se stabiliser, Ben celui-là va traverser l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas souffrir, qu'il ne va pas pleurer. Mais en tout cas, il ne la traversera pas n'importe comment. Parce que généralement, nos sentiments, qu'est-ce qu'ils font? Ça explose, on pleure, on crie après Dieu, ah, c'est injuste, etc. Si je suis bien calme, bien maîtrisé, je vois les choses arriver, et je peux mieux les gérer, normalement. Et surtout, je ne vais pas en vouloir à Dieu, je vais plutôt demander à Dieu de m'aider dans ces situations-là. Il continue en disant que la patience... Il parlait à ces chrétiens hein, qui attendaient le retour de Jésus-Christ. Pour eux, c'était très rapide. Ils croyaient qu'il allait arriver tout de suite. Ça fait 2000 ans qu'on attend, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver un jour. Mais pour eux, dans leur tête, ils devaient être patients parce que Jésus était proche. Cet avènement, hein, le mot grec, c'est parousia, je ne sais pas si vous avez déjà entendu. C'est un terme qui parle de l'avenir, tout simplement, pour parler du retour de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus va revenir sur la terre. Il est monté au ciel, mais il va revenir un jour, il va poser ses pieds à Jérusalem et tout le monde entier va le voir et il y aura des choses terribles qui vont se passer ce jour-là. Mais eux, ils les appelaient justement « patience ». Jésus va revenir, donc ils peuvent vous persécuter ou peuvent vous faire du mal, mais au bout, de toute façon, notre récompense, c'est que nous verrons Jésus-Christ avoir la victoire. Et donc ces chrétiens, à l'époque, ils ne pensaient pas mourir tout simplement, ils pensaient être enlevés. Un peu comme nous aujourd'hui, enfin, sauf si vous oubliez que l'Église peut être enlevée demain. Mais on peut être enlevé aussi, alors évidemment ça va être plus sympa d'être enlevé que de mourir d'un cancer, j'imagine. Mais bon, la question c'est de savoir si on est aussi prêt. Et je pense qu'il veut nous dire aussi que des fois notre patience doit être impatiente. Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte hein? Notre patience doit être impatiente. Si il nous appelle, Jacques, à être patient dans l'épreuve, en même temps il y a une espèce de tension qui se crée parce qu'on est impatient que Jésus revienne. Enfin, j'espère pour vous. Ou ça ne vous intéresse pas? Vous n'êtes pas impatient que Jésus revienne? Non, mais j'espère. Ça va être quelque chose de merveilleux. Donc, on doit être patient et en même temps impatient. Il y a une espèce de tension entre les deux façons de vivre. Mais le fait d'être impatient que Jésus va venir, ça devrait faire vibrer nos cœurs. Ça devrait nous réjouir. Pas tous les jours, évidemment, parce qu'on pense à autre chose. Mais j'espère qu'au fond de vos cœurs, vous êtes heureux de vous dire qu'un jour, Jésus va revenir nous prendre et qu'on va se retrouver devant lui. Ça va être merveilleux. On ne sera pas très fiers de qui on est, peut-être, mais une fois tout ça passé, hein, on sera avec lui pour l'éternité. Et ça, ça donne... Vous savez, quand vous êtes dans l'épreuve, dans la difficulté, ça donne de l'espérance. Il y a un film qui vient de sortir sur l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous avez vu. Et il est bien, c'est pas mal, c'est un peu poétique, mais bon... Mais à un moment, c'est Luc, je crois qu'il est en prison avec d'autres chrétiens qui allaient partir dans les, comment ça s'appelle, dans les arènes pour aller se faire manger par les lions et paniquer, les a calmés tout doucement et leur dit, vous savez, c'est juste un petit moment. Après, vous vous retrouverez avec Jésus-Christ. Enfin, s'il a dit, lui, il n'est pas allé. Mais c'est vrai, quelque part, c'est juste un moment à passer, des fois difficile, mais ma récompense au bout, c'est d'être avec le Seigneur. Et son retour, si je pense au retour de Jésus, c'est aussi, pour moi, un réconfort. Si je souffre dans ma vie, si j'ai des difficultés, c'est juste un temps. Et à un moment, je passerai l'éternité avec Jésus-Christ sans maladie, sans souffrance. Vous imaginez? Par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. Donc on est prêt à patienter un petit peu jusqu'à ce que nous voyons enfin Jésus-Christ. Savoir que Jésus revient ou qu'on va aller vers lui, quelque part, c'est une vraie source de réconfort. Si ça ne va pas, pensez à ça de temps en temps. Ça fait du bien au fond de son cœur. Et ça donne une force aussi aux chrétiens, parce que si je suis fort de cette espérance, je me dis que c'est un moment mauvais à passer dans ma vie, mais au bout, de toute façon, je vais aller vers Jésus-Christ, et c'est ça le plus important. Donc ça donne de la force que de penser à toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que Jacques dit à ces chrétiens dans la difficulté, pensez à Jésus, pensez à son retour, soyez patient jusqu'à ce qu'il revienne. Pour nous aujourd'hui, le chrétien est appelé à patienter avec ce but justement de se dire qu'un jour nous serons avec Jésus-Christ. Et ça doit nous réjouir, ça doit nous donner envie d'avoir des épreuves, non? Ça va nous donner surtout d'apprendre à être patient, peut-être de minimiser des fois ce qu'on met un peu trop haut. Hein. Il y a des fois des situations où on les exagère peut-être, apprendre à se maîtriser et on peut traverser les épreuves à ce moment-là. Une deuxième chose qu'il nous demande d'apprendre, c'est à patienter, mais sans se plaindre. Alors, je ne vais pas m'adresser à vous, parce que vous ne plaignez jamais, pas à moi, hein, mais dans l'épreuve, le premier réflexe, c'est quoi? Merci Seigneur pour cette épreuve, ou je vais apprendre encore à grandir dans la foi? Non. Pourquoi moi encore? L'autre, il n'a jamais d'épreuves, encore moi. Toujours moi des épreuves. Et on se plaint, et puis on murmure. Puis après un moment, enfin, on se calme, mais on est comme ça. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on se plaigne. Le mot plaindre veut parler de soupirer, de gémir. On se rappelle comment on est. De se plaindre, de murmurer en soi. Mais en parlant du peuple qui était dans le désert à l'époque, qui murmurait, Dieu n'aimait pas du tout. Alors, si à eux qui étaient dans la difficulté, parce que allez vous balader dans le désert, je vous parlais là, il y a quelques milliers d'années, avec ce qu'ils avaient à ce moment-là, et que Dieu leur demande de ne pas murmurer malgré les difficultés, combien nous, on devrait ne pas murmurer non plus, parce que nous, ça va quand même. On n'est pas dans le désert. Mais Dieu n'aime pas les plaintes. Pourquoi ? Tout simplement parce que celui qui se plaint devant Dieu dit « Je ne crois pas que tu peux m'aider ». Tout simplement. Murmurer, douter, c'est remettre en question tout simplement la capacité que Dieu a à nous aider à traverser les difficultés. Alors les difficultés quotidiennes des chrétiens, dans le film de l'apôtre Paul là, dont j'ai parlé, vous allez voir comment c'était la vie du chrétien. Allez le voir, c'est intéressant. Ils manquaient de travail, ou du moins ils étaient des fois discriminés parce qu'ils étaient chrétiens. Donc à l'époque, le travail, c'était extrêmement important. Il n'y avait pas le Pôle emploi, il n'y avait pas les indemnités, etc. Il n'y avait rien, en fait. Et si vous n'avez pas de travail, c'était pour mourir, tout simplement. Non seulement ils n'avaient pas de travail, ils étaient discriminés, mais de temps en temps, ils se faisaient arrêter, jeter aux lions, dans les arènes. Certains, on les mettait sur le côté, puis on les brûlait comme des torches pour illuminer, tout simplement, le roi et toute sa cour. Voilà ce qu'était, en fait, le quotidien tranquille du chrétien à l'époque. Ça va, non, aujourd'hui ? Non ? Non, ça va, je pense. Il y a des pays, c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. Il y a des pays où l'Église est encore persécutée. Et puis, eux étaient aussi obligés des fois de partir de Rome, par exemple, dans ce film, parce que c'était trop pour eux. Et donc, ils se retrouvaient loin de chez eux, complètement déracinés, sans travail. C'est pas évident. On peut penser aux migrants, des fois, qui vivent ces choses aujourd'hui. Alors, on va comparer nos difficultés actuelles par rapport à ces difficultés. Bon, on a des difficultés en France, on a aussi nos petits soucis, mais... Franchement, à comparer par rapport à ce qu'ils avaient eux et ce que nous vivons aujourd'hui, ça va, on n'a pas trop à se plaindre, on a des petits bobos de temps en temps, mais on ne va quand même pas murmurer à ce point-là pour ces petits bobos que nous souffrons de temps en temps. Et pourtant, nous nous plaignons. Bon, à l'époque aussi, ils se plaignaient, à mon avis, sinon Jacques ne l'aurait pas dit. Mais nous, avec nos petites difficultés, on arrive à se plaindre. J'ai pas le dernier iPhone. J'en ai marre. Ouais, mais des fois, quand on réfléchit un peu, bon, j'exagère peut-être là, mais des fois, on se plaint pour des choses que, franchement, on n'a pas à se plaindre. Pour la moindre difficulté, pour le moindre chose que le frère a dit, on se plaint. Et on n'est pas heureux. Pourtant, Jacques dit de ne pas se plaindre, par exemple, des frères. Et tout particulièrement quand on est dans la difficulté. Parce que c'est vrai que quand on est dans l'épreuve, dans la difficulté, on est un peu plus fragile. Et forcément, peut-être, on peut se monter les uns contre les autres, parfois même se diviser. Hélas, mais lui, ce qu'il voudrait plutôt que, au lieu de voir l'erreur chez le frère, c'est qu'on prenne du temps plutôt pour s'évaluer soi-même. C'est très facile d'évaluer les autres et de prendre du temps pour ça, mais si on prenait ce temps-là plutôt pour s'évaluer soi-même devant le Seigneur et voir nos problèmes à nous, plutôt que regarder les problèmes des autres. Dieu les voit et il va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Mais c'est moi qui est important devant lui. Et surtout quand on est dans la difficulté, je crois qu'on a autre chose à faire que de regarder les problèmes des autres. On est dans l'épreuve, on est persécuté. Oh! Pensez à autre chose. Vous savez, en 70, Jérusalem et le temple vont être détruites. Et quand les Romains sont arrivés, en fait, les Juifs étaient... Il y avait quatre groupes juifs qui se disputaient entre eux, qui se faisaient la guerre entre eux. Et les Romains arrivent, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Travailler ensemble pour expulser. Non, ils ont continué à se taper dessus. C'est chouette, des fois, comme on est tordu. Ben, on est pareil, des fois, en tant que chrétien. On n'est pas solidaire. Parce que notre cœur dit que j'ai envie de faire moi ce que j'ai envie. Et des fois, il y a des conflits qui sont vraiment insignifiants, qui ne devraient même pas être. Mais malgré tout, ça prend des proportions énormes. Dans l'épreuve, il faut être solidaire. Si vraiment on passe un moment difficile un jour, ce n'est pas le moment de se disputer. Réglez vos problèmes vite fait, mais restons solidaires, prions ensemble et avançons ensemble. Et surtout, cessons de nous plaindre des autres, parce qu'un jour, je me retrouverai devant Jésus. Et lui, il va reprendre tout ça. Ah, tu t'es plaint de lui, de ça? Tu penses que c'était juste, franchement? Là, on peut le faire parce qu'on ne voit pas Jésus, mais quand on sera en face de lui, on va moins rigoler, à mon avis. Donc le chrétien doit s'évaluer, nous dit Jacques lui-même, parce qu'un jour il se trouvera devant le juge, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et là, bah, il sera évalué vraiment, pas avec son cœur, pas avec ses yeux, mais avec le cœur de Dieu, avec le cœur de Jésus-Christ. Et là, ça va être autre chose. Un certain Hudson Taylor, hein, vous connaissez, a fait cette fois cette confession. « Ma plus grande tentation est de perdre mon calme devant la négligence et l'incapacité si décevante chez ceux dont je dépendais. Hein, » c'était un missionnaire à l'époque. « Il n'y a aucune raison de me fâcher, seulement de la gentillesse. Mais alors, quelle épreuve ! Quelle épreuve d'être des fois gentil avec des gens qui sont méchants. » On apprend la patience. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on apprend. Et vous pouvez arriver à un moment, être en face de gens extrêmement méchants, d'apprendre à vous maîtriser, d'être calme, les laisser dire, de les aimer même, avoir pitié un petit peu d'eux quelque part, mais de ne pas vous emporter. Et c'est là où on est fort. On croit des fois que c'est en tapant plus fort l'autre qu'on est fort. Non, non, quand quelqu'un se maîtrise, et surtout dans l'épreuve, c'est quelqu'un qui est vraiment fort. Faites l'expérience, vous allez voir la différence. C'est mieux. Et puis il dit, ne pas se plaindre des frères pour ne pas être jugés eux-mêmes. Hein. Nous serons-nous jugés un jour pour notre comportement ? On avait vu au chapitre 4 que critiquer, calomnier, c'est se faire soi-même juge et prononcer une sentence vis-à-vis des frères. Et on devient le juge. Mais dans Matthieu 7, 1, il est dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé vous-même. Allez-y, jugez. Mais à un moment, vous allez être jugé par Dieu de la même manière que vous jugez les autres. Et là, ça va être moins drôle, surtout si c'est Dieu qui le fait pour nous. Donc Jacques rappelle que ça ne sert à rien de se critiquer, de se plaindre, parce que de toute façon, si vous le faites, le Seigneur va vous en tenir compte, et on sera jugé aussi pour ces choses-là. Et ce jugement est imminent, comme il dit, parce que Jésus est à la porte. Il va me dire, ouais, mais ça fait 2000 ans qu'on dit que Jésus va venir, hein, ça fait long. 2000 ans, c'est long quand même, hein. Ça ne veut pas dire que Jésus ne va pas venir demain. Voilà, il a dit qu'il reviendrait, moi je crois qu'il reviendra. S'il prend son temps, c'est certainement pour que beaucoup de gens encore se repentent, parce qu'il est dit dans Pierre qu'il est patient vis-à-vis de nous. Vous imaginez s'il était revenu il y a 40 ans, on n'aurait peut-être pas connu le Seigneur, on n'aurait pas été sauvé. Il est patient comme le Seigneur, et plein d'amour pour chacun d'entre nous, mais un jour ça sera fini, cette patience s'arrêtera, dit Pierre, et il reviendra. Et surtout peut-être qu'il faut apprendre à se dire que Jésus est peut-être pas forcément son retour, mais que moi je peux le voir demain. Il suffit d'avoir un accident de voiture, de mourir, et je me retrouve devant Jésus-Christ. Et je serai jugé devant lui à ce moment-là. Est-ce que moi, je suis prêt devant lui ? Est-ce que j'ai demandé pardon pour mes péchés ? Est-ce que j'ai accepté que je suis pécheur et que, ben, de ce fait, nous dit Romain, ben, je ne peux pas accéder au paradis ? Est-ce que j'ai accepté de me repentir et d'accepter que Jésus-Christ est mon sauveur ? C'est tout ça que demande tout simplement la Bible, accepter sa grâce. Si je ne l'ai pas fait, je ne suis pas prêt encore à aller voir le Seigneur. Et faites-le rapidement parce que nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Et donc il est préférable de rencontrer Christ avec le cœur plein d'amour que plein de plaintes, non ? Je pense que quand on arrive avec plein d'amour, c'est déjà on a beaucoup de choses à se reprocher peut-être, hein. Alors, on n'est pas parfait, mais si on vient en plus avec plein de plaintes, de critiques et tout ça devant lui, on ne va pas avoir l'air très fier devant lui. Donc vaut mieux régler tout cela du vivant, c'est mieux. Le chrétien donc, nous dit Jacques, est appelé à patienter mais sans murmurer. Le murmure n'apporte rien. Il n'aide pas à la maîtrise, il n'aide pas à devenir fort. Il fait simplement le contraire de ce que Dieu veut. Et il dit, apprenez à être patient, mais maintenant il va donner deux exemples, des modèles tout simplement, sur lesquels on peut se référencer. Hein. Deux modèles de patience dans l'épreuve. Il y en aurait beaucoup d'autres dans la Bible, hein, mais il n'en donne que deux. D'abord, celui des prophètes. Alors, il y a beaucoup de prophètes, mais il fait un résumé de tout cela. Eux ont appris la patience dans la difficulté, dans les jugements qu'ils ont dû prononcer, dans les oracles qu'ils ont dû annoncer. Ils disent que c'est des modèles de souffrance, et le mot souffrance parle de cette souffrance qui vient du mal. Hein, ce n'est pas une souffrance parce que je n'ai pas pu manger à midi, mais c'est parce qu'on est en train de me faire du mal, on me persécute. Et donc, eux ont appris à être patients malgré toute la souffrance qu'on leur a faite. Et les prophètes, hein, prenez le temps de lire l'Ancien Testament, ils en ont bavé terriblement. C'est des modèles de patience pour nous, cette patience douce qu'on en avait vue, paisible et persévérante. Ils souffraient, ils patientaient à cause de leur témoignage. Vous savez, être prophète à l'époque, c'était venir devant un peuple qui refusait totalement Dieu, tout ce qu'il demandait, et de leur dire « Arrêtez, vous avez tort, changez d'attitude ». Et qu'est-ce que faisait le peuple généralement ? « Bravo, on va changer ». On jetait des pierres, oui, plutôt. Et on les tuait même des fois, tout simplement. Ça donne pas envie, hein. Je compare ça un peu à aller en Corée du Nord, hein, et d'aller évangéliser là-bas. Vous avez envie? Pourquoi non? Ça peut être marrant, non? Il y a des chrétiens qui sont là-bas qui le font. Eh oui, il y en a. Ils souffrent énormément, mais ils sont là-bas. Moi qui devais parler au nom du Seigneur, reprendre le peuple, mais évidemment, ils refusaient d'écouter. Et ce n'est pas parce qu'ils ont refusé une fois qu'ils ne sont pas retournés une deuxième fois, une troisième fois, même s'il y avait des pierres, même si on les a tués, même si on les a persécutés. On connaît Esaïe, Élie, tous ces gens-là ont extrêmement souffert, mais ils voulaient annoncer le nom du Seigneur, corriger ces peuples-là. Ils sont donc des modèles, enfin j'espère pour nous, en tant que chrétiens. Le terme modèle parle d'exemple, d'image, de représentation ou de copie. On devrait être des copies, en fait, de ces prophètes. Alors, on n'est peut-être pas aussi fort, on n'est pas appelé à vivre forcément les mêmes choses, mais le modèle reste le même pour chacun. Il faut apprendre à patienter dans l'épreuve. Vous aurez peut-être des épreuves plus difficiles que d'autres, c'est parce que vous êtes capable de les supporter, nous dit la Bible, mais il faut, dans tous les cas, apprendre à être patient. Et c'est bien de reprendre sa Bible, d'aller voir comment eux ont vécu les difficultés, les épreuves, et puis essayer de charger tout ça dans notre disque dur et nous en souvenir au moment où ça va arriver. Il dit, ils sont comme des copies de Christ. Ils cherchaient en fait à ressembler tout simplement au Seigneur. Je crois qu'on est très loin de ressembler encore à Jésus-Christ, enfin, sauf s'il y a quelqu'un qui est à ce point-là, dites-moi-le. Mais il faut y tendre en tout cas. Il faut y tendre. Et c'est pas quand tout va bien qu'on va apprendre à devenir une copie de Christ. Je suis désolé de vous le dire. Quand tout va bien, tout va bien. On se laisse aller. Et généralement, on commence plutôt à diminuer dans notre foi, dans notre vie spirituelle. Mais quand tout va mal, d'un coup, on est vivant. C'est curieux, hein ? Oh là là, qu'est-ce que je prie ? Qu'est-ce que je demande à Dieu ? On est vivant. Mais il faudrait être vivant même quand tout va bien. C'est dommage qu'on ne soit pas. Cherchons-nous aussi à devenir ces copies, et surtout quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves. Eux sont considérés comme des bienheureux. Ça veut dire quelqu'un qui est heureux, qui est chanceux, qui est annoncé comme béni. Or, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont vraiment bénis d'avoir souffert tout ce qu'ils ont vécu, mais c'est parce qu'ils ont été patients, parce qu'ils ont été une copie de Christ, quelque part, qu'ils sont bénis. Et même pour eux-mêmes, je pense que d'avoir accepté d'être confrontés à tout cela et d'avoir été patients, ils ont été bénis eux-mêmes. Parce que des fois, les peuples ont changé. Je pense à Jonas, même si lui, il n'a rien compris à ce moment-là, mais peut-être avec le temps, il a réfléchi, mais le peuple qu'il a repris s'est converti. Enfin, s'est en tout cas repenti. Donc des fois, on est dans l'épreuve, et on a l'impression que tout va être sombre, mais des fois c'est même positif, pour moi, et peut-être même pour les autres. C'est chouette l'épreuve. Non ? J'arrive pas à vous vendre cela. C'est chouette l'épreuve. Non, j'aime pas non plus, mais je sais que c'est tellement important pour grandir avec le Seigneur. Eux ont souffert patiemment, ils ont été fermes dans la durée, malgré toutes les difficultés. Et ça prouve surtout que patienter est quelque part bénéfique, parce que la colère de l'impatience, ça n'apporte rien de bon dans votre cœur, dans votre vie. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, hein, comme on dit. Ça ne produit rien en vous, en fait. Mais le fait d'apprendre à patienter, à se confier en Dieu, ça devient extrêmement bénéfique, parce qu'on apprend à se maîtriser, on apprend à voir que Dieu est là, prend soin de nous, et va nous sortir tout simplement de la difficulté. C'est quand même mieux que passer toute la nuit à pleurer, hein. Enfin, on peut un peu pleurer quand même, parce que c'est vrai que c'est pas toujours marrant de passer par l'épreuve, mais il y a pleurs et pleurs. Quelqu'un écrivait, en parlant d'un certain Ernest Gordon, qui écrivait au sujet de son père, « Il a supporté les critiques et l'opposition sans récrimination. Un chrétien devait être un porteur de flambeau pour Christ, patient, intrépide et jamais découragé. S'il arrive qu'une tempête d'injures fonde sur lui, il doit rester debout, aussi indifférent qu'une statue, exposant la parole de vie. Si des rafales du ridicule lui éclaboussent le visage, il doit les prendre silencieusement et imperturbablement, comme un objet en bronze subit la tempête. C'est l'homme qui demeure debout qui dirige le monde. » Je le souligne, je répète, c'est l'homme qui demeure debout qui dirige le monde. Et oui, c'est vrai. Et cette patience que je vais apprendre avec le Seigneur me permettra d'être justement debout et de maîtriser absolument toute la situation. Et puis il prend un deuxième exemple, c'est Job. Alors vous connaissez tous l'histoire de Job, hein. Satan se présente devant Dieu et dit « Ouais, c'est parce qu'il a tout ça, qu'il t'aime et qu'il va te suivre, enlève tout ça et puis tu verras. » Eh bien, il va se plaindre, il va pleurer, il va te quitter. Il va perdre ses enfants, il va perdre toute sa fortune, il était très riche. Il va devenir malade et assis là dans sa maladie, ben, il va commencer à discuter avec Dieu, et vous savez comment ça finira. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Hein. On se pose la question, enfin certains commentateurs se posent la question, pourquoi il met Job ? Parce que Job, lui, c'est vraiment un exemple. Si vous lisez bien, il râlait quand même. Hein. Ah oui, il râlait. Il n'était pas content de la situation. Hein. Et il va se plaindre d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un écrivait par rapport à ça, « La soumission de Job n'est pas une soumission servile, rampante, sans demande d'explication. Job luttait, interrogeait, quelquefois se rebiffait, mais la flamme de sa foi ne s'est jamais éteinte dans son cœur. » Quand on est dans l'épreuve, il ne s'agit pas d'être parfait. C'est pas ça l'idée. Je pense qu'on a le droit de poser des questions à Dieu, pas de se plaindre dans le sens du murmure péjoratif, mais de se dire « qu'est-ce qui se passe ?» Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Pourquoi je suis dans la difficulté ? Et Job, justement, il va commencer à dialoguer avec Dieu et va se rendre compte que lui-même, il était loin d'être parfait au bout. Et il va rencontrer vraiment qui était Dieu. C'était dur, mais il s'en est sorti indemne. Hein. Donc, ça prouve surtout qu'il était humain. Parce que des fois, on pourrait dire Job, c'était un... Hein, comme Jésus, quoi. Il était prêt à tout vivre. Maintenant, c'était un homme comme nous. Il murmurait, mais peut-être pas dans le sens négatif, mais en tout cas, il dialoguait avec Dieu et il disait ben, « ça ne me plaît pas, je ne suis pas bien et... ». Mais le fait de dialoguer avec Dieu, le fait de parler avec lui, cette foi restait intacte. On peut dire qu'on a la foi, même quand des fois, on n'est pas forcément d'accord avec ce que Dieu est en train de nous faire. Bon, il ne faut pas aller trop loin non plus, hein, dans ce que je suis en train de dire. Mais à un moment, il faut aussi fléchir devant Dieu, et c'est ce qu'il va faire. Il s'est peut-être un peu rebiffé, mais à la fin, il va fléchir devant Dieu, parce que Dieu va lui donner aussi des arguments. Donc si, dans l'épreuve, vous voyez que vous êtes peut-être un peu en train de râler, mais pas méchamment, mais voilà, je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive, c'est pas un péché, d'accord ? Vous savez, quand on discute avec quelqu'un d'autre, peut-être quand il y a une difficulté, qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous parlez, vous discutez, vous argumentez, non ? On fait comme ça, généralement. Bah, quand vous communiquez avec Dieu, faites de la même manière. Faites pas semblant que ça vous fait rien. Dieu sait exactement ce que ça vous fait. Hein. Donc c'est mieux des fois de dire ce que l'on ressent à Dieu, parce que ça va apaiser aussi notre cœur. Hein. Mais c'est pas la même chose que de commencer à râler contre Dieu, à dire c'est injuste, etc. C'est pas tout à fait la même façon de faire. C'est une patience qui a aussi des buts. Par exemple, dans la vie de Job, il y avait 4 buts au moins. 4 buts, voilà. Éprouver la foi de Job et voir si elle était authentique. Parce qu'on dit souvent « j'ai la foi !» Première épreuve, boum, je suis écroulé et j'ai plus envie de suivre Christ. Vous n'aviez pas la foi. Job a passé des choses terribles, il a fait ça, mais il est resté debout jusqu'au bout. Deuxième but, peut-être, contrecarrer la tentation de Satan de détruire cette foi, puisque Satan dit, oui, mais il a la foi parce qu'il a des biens, enlève-lui tout ça, tu verras, il n'a plus la foi, ben, il a perdu. Alors quand on est dans l'épreuve, dites-vous aussi que Satan, il est là en train de dire, vas-y, vas-y, tape un peu plus, écrase un peu plus, tu vas voir, il va te lâcher. Ben, à nous de lutter aussi pour qu'il ne soit pas victorieux au bout. Troisième chose, fortifier la foi de Job aussi et lui permettre de voir Dieu plus clairement. Il n'a pas vu Dieu face à face, mais en tout cas, il a vu ce que Dieu pouvait faire malgré la plus grande des difficultés. Et au bout, Dieu l'en sortira. Et surtout, il en sortira beaucoup plus fort, puisque cette foi aura extrêmement grandi. Et puis, quatrième chose, c'est accroître les bénédictions de Job, puisque dans Job 42, 12, il est dit... Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans la première. Il posséda 14 000 machins, les débeux et tout ça. En tout cas, il était plus riche et plus heureux encore qu'avant. Mais il a fallu d'abord traverser cette épreuve. Je ne sais pas parce que vous avez traversé l'épreuve, vous serez riche. Hein, rassure-le-t-il. Mais voilà, si veut, le Seigneur peut le faire, mais pas forcément croire que c'est comme cela que ça se fait. Mais en tout cas, sa fin, hein, ça doit nous encourager et nous servir d'exemple, tout simplement. La richesse pour le chrétien de traverser l'épreuve et qu'une fois fini, c'est de se dire « j'ai tenu, donc j'ai la foi, Dieu m'a aidé, et c'est vrai, il est effectivement là et peut m'aider, quelles que soient les difficultés, et puis surtout j'ai grandi spirituellement, je suis prêt pour la prochaine épreuve, chouette, je ne la prendrai peut-être pas de la même manière. » Parce que si vous avez l'expérience de la présence de Dieu au travers des épreuves que vous avez vécues dans votre vie, la prochaine épreuve, elle est tranquille, pépère. On va la traverser avec la foi. Le problème, c'est que ça augmente aussi, généralement, hein, pour que notre foi aussi augmente. Pas forcément, mais bon. Mais normalement, au bout d'une vie, on devrait quand même être capable de traverser l'épreuve avec un peu plus de foi et avec un peu plus de sourire. Et puis, il dit, Jacques, sa fin nous rappelle que le Seigneur est plein de miséricorde. Vous savez, quand nous sommes dans l'épreuve, Dieu n'est pas en train de dire, c'est bien fait pour vous. Il est triste, évidemment, il est malheureux. Enfin, malheureux. Des fois, c'est nécessaire pour que nous changions. Là, il agit comme un père, mais il comprend parfaitement ce que nous vivons. Christ était un homme aussi. Il comprend parfaitement ce que nous souffrons. Mais il est plein de miséricorde, nous comprend, pardonne peut-être nos erreurs, nos maux, nos murmures, nos plaintes peut-être. Et ça, ça fait du bien. Je me dis que quand de l'épreuve où je craque des fois, ben Dieu ne va pas venir avec un couperet pour me couper en deux. Au contraire, il va avoir de l'amour pour moi. C'est merveilleux, non? On pourrait dire à un moment, il y en a marre, hein, il faudrait que tu grandisses. Mais non, il a plein de miséricorde. Et il dit aussi qu'il est plein de compassion. Il est triste de nous voir souffrir dans l'épreuve, mais par cette compassion, il est aussi prêt à nous aider. Et ça, c'est merveilleux. Parce que si tout va mal, j'ai toujours quelqu'un à côté qui va m'aider. C'est nous qui le refusons bien souvent. Mais la main, elle est tendue. À nous, évidemment, de la saisir. Voilà deux modèles qui nous rappellent que la patience, elle est possible. Je sais, vous n'avez pas aimé, mais la patience est possible. Je me dis à moi, hein, en premier. C'est possible, pas parce que moi je suis fort, ou pas parce que je suis un vieux briscard chrétien, mais simplement parce que Dieu le dit, et parce que Dieu va m'aider. Quand j'ai fini de traverser l'épreuve, je ne vais pas dire « qu'est-ce que j'étais fort hein. ?» Dire « qu'est-ce que Dieu m'a aidé ?» C'est ça que je veux dire. Il faut avoir l'humilité aussi de reconnaître l'aide de Dieu. Après, on peut se dire quand même « voilà, cette fois j'ai bien réagi. » On peut se féliciter un petit peu quand même. Mais généralement, il y en a une autre qui arrive, et là, on est vite calmé. Pour terminer, dans l'épreuve, il faut apprendre à vivre patiemment. Être patient, c'est long, c'est difficile. Il faut le faire sans murmure, nous dit la Bible, sans nous plaindre de Dieu, des autres. C'est vraiment pas facile, mais c'est possible, on va dire. Mais il faut passer par là à un moment. Mais la patience, elle est bénéfique, on l'a dit, parce qu'elle produit la foi. On croit en Dieu, mais Job, à mon avis, quand il dit « j'ai vu Dieu », hein, quelque part, il a commencé à comprendre qu'il était effectivement à ses côtés, qu'il pouvait absolument l'aider et qu'il était tout puissant. Mais il faut le vivre, ça, pour le comprendre. Ça produit la foi, ça produit la dépendance à Dieu. On est très dépendant de Dieu dans l'épreuve. On devrait être déjà avant pour se préparer pour l'épreuve. Mais dans l'épreuve, je veux vraiment saisir cette main de Christ, hein, et marcher avec lui dans la tempête. Et puis ça apprend la maîtrise de soi. Un cœur calme, tranquille dans la tempête. C'est génial, en fait, non? Venez, ça ne me fait plus rien. Enfin, j'exagère peut-être un peu. Hein. Mais en tout cas, oui, à un moment, je pense qu'on peut rester calme dans la tempête. Ça existe. La preuve, les Job et les prophètes. Mais nous aussi, on peut vivre cela. Et cette patience, elle doit être motivée, on l'a dit, par le retour de Jésus-Christ et surtout le tribunal de Christ. Pour les chrétiens, ils ne vont pas aller en enfer, mais ils vont passer par le tribunal de Christ où on sera évalué de notre manière de vivre. Étant dans ce corps, évidemment, si je suis un grand râleur, Seigneur ne sera pas content. Il comprend qu'on râle pendant un moment, parce qu'on doit apprendre. Mais à un moment, quand on a un certain temps de vie chrétienne, je crois qu'il faut arrêter d'être des enfants, il faut mûrir, nous dit la Bible, hein, et aller un peu de l'avant. Mais on sera évalué. Et surtout, sachant que Dieu est toujours, 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 j'ai envie de répéter 20 000 fois, toujours avec nous dans l'épreuve. C'est pas une chance, ça? C'est chouette, les épreuves, alors. Prions. Oui, Seigneur, quelle chance que tu sois vivant. Quelle chance que, dans l'épreuve, tu es juste à côté de nous. Quelle chance que tu vas aussi nous sortir de l'épreuve, parce que tu dis qu'il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces. Et si tu l'envoies, c'est que nous sommes absolument capables de nous en sortir, grâce à toi, évidemment. Mais Seigneur, tu sais notre cœur comment il est bien souvent et il est loin d'agir comme cela. Pardon Seigneur si nous murmurons, nous ne comprenons pas la finalité de ces périodes que tu permets dans notre vie. Apprends-nous à être patient Seigneur, apprends-nous à être de plus en plus patient dans la difficulté, dans l'épreuve, pour apprendre à nous maîtriser, apprendre à te voir agir Seigneur aussi, être des modèles peut-être pour notre prochain, peut-être même susciter l'interrogation de ceux qui ne te connaissent pas. Et de nous voir là traverser l'épreuve tranquille alors qu'eux ne comprennent pas cela, ben, ça peut être une occasion de témoignage. Voilà Seigneur, un grand travail que tu vas faire de toute façon dans notre vie. Apprends-nous à tout simplement l'accepter et à marcher avec toi fidèlement en Jésus-Christ. Amen.